Chapitre 8. Il nous dit, plus tard, qu'il avait remarqué au valet de chambre un air goguenard. Était-ce bien exact? Toujours est-il qu'il n'y eut rien d'insolite dans la façon dont M. et Mme Plancoulen nous accueillirent. Mme Plancoulen m'embrassa avec plus de chaleur que je n'en eusse demandé. M. Plancoulen avait le visage cramoisi, ce qui lui était assez ordinaire, surtout après les repas, et il venait de déjeuner avec le curé de la ville aux dames, fort buveur et mangeur, qui avait plus de couleur encore que son hôte. Nous trouvâmes aussi un musicien de Paris, que l'on disait célèbre, qui venait passer 6 semaines chaque été, et que l'on appelait M. Théodore. Le neveu Moche, celui pour qui M. Plancoulen convoitait la maison Coliveau, avait aussi déjeuné là. C'était un homme veuf, grisonnant, quelconque, vivant à l'ombre de son puissant oncle comme un jeune homme en tutelle. Il était flanqué de 2 filles sans agrément que l'on continuait d'appeler les fillettes depuis plus de 20 ans. Presque en même temps que nous, arrivèrent, par le jardin, les Capdevielle, le directeur de la fabrique, sa femme, leurs 5 filles, l'institutrice et l'anglaise. Comme nous étions encore debout dans le petit salon, nous nous portâmes jusqu'au perron pour le plaisir de les voir descendre d'un break à 2 chevaux ou des bras émergés par-dessus les têtes, immobiles comme des échalas, parce qu'ayant de loin fait des signaux, ils ne trouvaient plus place dans cet amas de corps tant on était tassés. C'était le bonheur de M. Plancoulen, qui n'avait pas d'enfants, de voir des familles nombreuses, et il estimait la santé, la gaieté, l'exubérance. Les 5 petites Capdevielle, habillées toutes de même, en percale blanche, coiffées de capotes de toile, d'où leurs cheveux débordaient en boucles, rappelaient les brochettes d'enfants de Kate Greenaway. Leur mine était éblouissante. On leur avait déniché une institutrice, bien incapable d'enseigner quoi que ce fût, qu'elle n'eût elle-même appris mot à mot et par cœur, car on la déroutait en lui citant les sous-préfectures par ordre d'importance au lieu de l'ordre alphabétique, mais qui aimait les petites follement. Un geste, un mot des babies, lui arrachait des éclats de rire à couvrir le tapage des 5 sœurs. L'anglaise, plus réservée, écoutait attentivement tout ce qui se disait afin d'apprendre la langue. Ce furent des embrassements, des cris. M. Plancoulen, colosse attaqué seulement aux jambes par la goutte, saisissait chaque petite Capdevielle à la taille et l'élevait au niveau de sa moustache, qui piquait la chair fraîche des joues et faisait pousser aux Kate Greenaways des glapissements de renard pris par la queue, sans les fâcher du reste, car elle demandait parfois à recommencer pour crier plus fort. Alors le musicien, M. Théodore, sortait. Mon père fut heureux de voir arriver M. Clérambourg, son grand ami. M. Clérambourg était, de la vie commun, aussi sage que M. Plancoulen était irritable et violent. Tous les deux, hommes d'âge, étaient dans la ville des autorités, mais l'un dominait grâce à son salon et à sa colère. Le juge de paix, M. Gantois, et sa femme entrèrent peu après, tandis que le curé de la ville aux dames s'en allait chanter les vêpres. Puis vint le colonel Flamel, bel homme, fine tournure, ancien officier au guide, Solferino, Mexique, pieds gelés à Sébastopol, poitrine trouée à Gravelotte, démissionnaire lors de la mort du prince impérial, âme loyale et fidèle. Il dépassait d'une bonne tête le jeune docteur Troufflot, toujours en longue redingote noire et en chapeau haut de forme, une tenue bien incommode pour la saison, et qui le distinguait de tous ces messieurs. Mais il tentait par là, disait-on, de balancer l'effet de sa jeunesse, difficilement conciliable avec l'autorité scientifique. Ce jeune Troufflot avait la chance de se trouver par hasard seul médecin à Beaumont, qui fournit un contingent de malades à nourrir 2 docteurs, et il eût été le plus heureux des hommes s'il avait réussi à s'y marier convenablement. En 6 mois, il s'était vu refuser 3 jeunes filles du pays, ce qui lui créait, vis-à-vis des familles, quand elles étaient obligées de recourir à ses soins, une situation délicate. Par contre, des familles lui faisaient la tête s'il ne songeait pas à les honorer d'une demande qu'elles eussent d'ailleurs écartée à cause de son âge et de son manque de fortune. Les Plancoulen, entre autres, s'indignaient qu'il ne courtisât pas l'une des demoiselles moches. On lui conseillait d'épouser hors du pays. Mais cela n'eût-il pas passé pour bravade? Et le pauvre garçon était trop occupé pour battre le département en quête d'une femme. À ses jolis yeux doux, on devinait en lui un cœur tendre à qui la solitude pesait. Il semblait toujours malheureux, avec sa redingote longue et son tuyau de poils, comme un monsieur susceptible du cerveau et qui est sorti sans mouchoir. On entendait le sable grésiller dans les allées du parc, un ordre donné au cocher, le cliquetis des gourmettes, des pas sur le perron, et l'on voyait des gilets blancs apparaître contre les sombres tapisseries du petit salon. Des femmes, des jeunes gens, des enfants suivaient. C'étaient les châtelains des environs. On causait tout de suite chevaux, vignobles, constructions, impôts, chasse ou politique. Nous vîmes s'avancer lentement la vieille madame Charnaison que soutenait son fils, le député. Je fus horriblement intimidé quand Marguerite s'approcha. Il vint encore bien d'autres personnes, mais je n'en finirai pas si je nommais tout le monde. Quand on était réunis dans le grand salon, Madame Plancoulaine considérait cette affluence avec un ravissement dans toute sa physionomie, et l'on savait qu'elle pensait au goûter. Offrir à goûter était le but de la vie de cette femme excellente. Elle eût offert à déjeuner et à dîner si sa fortune le lui eût permis. À défaut, elle distribuait du raisiné à 4 heures. Ce n'était pas une gourmandise de manger ce raisiné, mais il faut avouer que le nombre et l'entrain des convives sont un attrait plus grand que les plus fins repas. Que l'on se figure une salle entièrement garnie, telle une bibliothèque, de rayons qui supportaient, côte à côte, des récipients de formes variées, car tout bocal, tout bol, toute terrine, toute soupière, tout saladier, toute urne, entrait dans la maison, finissait en pot de raisinée, coiffé d'un turban de papier lié d'une ficelle et rempli jusqu'au bord de cette manière très propre à étendre sur le pain, composé essentiellement de jus de fruits, de poires, de coques et de pépins de raisin. C'était l'office, ouvert à 2 battants sur la salle à manger. Quand l'heure était venue, on passait là en foule. On contemplait ses réserves de nature à soutenir un siège, et quelques galants de ces messieurs en complimentaient la maîtresse de maison. Rosalie, la bonne, montait sur une courte échelle, atteignait le pot que son rang destinait à être entamé, s'en écrasait la poitrine, enfin redescendant avec quelque majesté, et non sans accrocher le bord de sa jupe à quelque tête de clou, déposait le raisiné sur la table au milieu d'un peuple attentif. Madame Plancoulaine elle-même, ayant décoiffé le pot, y enfonçait une cuillère de bois de la largeur d'une de nos mains. On trépignait, on criait, on riait. 40 bras tendaient des tartines. Alors Madame Plancoulaine, se rengorgeant, remerciait Dieu d'avoir fait le monde.